Bonsoir les auditeurs de Radio G.
Bonsoir.
Avec Karine dans le studio.
En effet.
Jusqu'à 22h.
Eh oui.
Ce soir, on va revenir sur... On va commencer peut-être par revenir sur la nuit de la lecture à laquelle on a participé samedi.
Oui.
Après, on aura une interview par Seb de l'auteur de la bande dessinée... Attends, je ne veux pas que je dise des bêtises, Zone 25, je crois.
Oui. Ouais.
Aux éditions Macaca, un post-apo, un peu BD dont vous êtes le héros, hein, comme a l'habitude de faire cet éditeur. Et puis après, ta chronique.
Oui.
Tu vas nous parler de Fumée.
Fumée de Nicolas Texier aux éditions Les Moutons Électriques.
Un roman graphique, hein, on peut dire là. J'ai l'impression que tout est illustré par Melchior Ascaride. Donc graphiste et illustrateur maison. Et puis, en deuxième partie d'émission, on aura l'interview d'Hervé Le Tellier qu'on avait rencontré aux Utopiales. Il était venu pour faire la promotion de L'Anomalie, roman sorti en 2020, puisqu'il a eu le prix Goncourt pour ce roman cette année-là. Et... Allez, on commence avec un petit peu de musique. Hein. Musique de film horrifique des années 80. Faire un petit peu écho à la nuit de la lecture, hein, samedi dernier sur le thème de la peur. Les Dickies avec le générique de Killer Clowns from Outer Space. Ceux qui sont venus faire du jeu de rôle avec nous comprendront pourquoi. Et pourquoi j'ai passé ce morceau alors, Karine ?
Eh bien, parce que nous étions à la nuit de la lecture.
Et c'est quoi le rapport ?
À la médiathèque, tout ça ! Le rapport, eh bien, c'est sans doute l'une de tes tables de jeux de rôle. Ouais,
c'était celle de Sébastien, en fait. Sébastien, des voix du scénarium sur Radio G, qui faisait jouer un scénario du jeu Monstre, où, on va pas trop spoiler, mais il y a plutôt un killer clown, quand même, qui traîne dans un parc d'attractions. D'ailleurs, t'as pas vu son masque ? Il avait un masque assez génial.
Non,
il avait un masque de clown et quand tu enlevais le masque dessous, t'avais une tête de zombie quoi.
Ah, pas
un
mal.
Double masque, double jeu.
Eh oui.
Complètement dans la thématique d'imaginaire 2023.
Oui, complètement. Donc côté table de jeux de rôle, ben tu peux nous en dire plus, mais en tout cas a priori il y avait beaucoup d'intérêt pour les jeux que
ouais ben on a pas on a beaucoup joué effectivement. Enfin moi finalement j'ai fait jouer des jeux pour les jeunes en fait hein. Donc Trouilleville qui s'adresse je dirais jusqu'à 9 ans hein. Je pense qu'après je sais pas si ça enfin les enfants peuvent passer à des trucs un peu plus pour les grands. Et Trouilleville, où tu incarnes des monstres qui vivent à Trouilleville, qui est perdu dans la forêt, mais de vilains bûcherons arrivent et tout. Eh ben, c'est aux éditions Macaca dont Sébastien va parler dans quelques minutes sur le 100%. Je crois que c'est le premier jeu de rôle qu'ils éditent, il me semble. Faudrait que je vérifie. Jeu de rôle, donc pour les enfants. Hein. C'est vraiment écrit, même sur la couverture, avec des monstres assez choupis, quoi. Et des deux histoires dans le livre qui sont assez choupies aussi. Et donc ouais, on a quand même eu le temps de faire trois parties. Hein. Donc ouais, ça a plutôt bien plu. Et puis j'ai commencé une partie de Petit Vampire aussi. Donc dans l'univers de Monstres. Et on n'a pas le temps de terminer. On s'est fait virer à 23h40. Hein, voilà.
Ah oui.
Il était temps. Et j'avais encore des enfants à ma table. Donc les enfants sont restés très tard pour la nuit de la lecture. Oui. Hein.
Mais oui, il semblerait qu'il y avait beaucoup d'enfants, puisque côté blind test, c'est pareil. Il y avait beaucoup d'enfants qui étaient présents et de nombreuses personnes, de nombreux adultes, une soixantaine de personnes au total quand même.
Blind test avait été préparé et animé par Julie, qui est une ancienne chroniqueuse de cette émission, hein, que vous avez entendue il y a quelques temps. Sous le nom de Beth Green. Je crois qu'elle a, par contre, elle avait prévu plutôt un blind test pour les grands.
Oui.
Alors, je ne sais pas s'il y avait des images qui faisaient peur.
Quelques-unes, je crois, notamment une.
Ah, toi, il y a un truc qui t'a fait
peur. Tout particulièrement. Non. Mais justement, elle a prévenu à un moment donné, quand elle a affiché. Je ne sais plus si c'était un truc de film ou pas.
Bah ouais, j'imagine.
J'imagine que c'était ça, mais je sais plus exactement. Mais oui, c'était plutôt préparé pour les adultes. Mais justement, ça a été notre réflexion après coup. On va peut-être.
Ça a commencé à 21h30. Pour la prochaine fois.
on va peut-être axer aussi les jeunes, finalement. Des questions peut-être exclusivement pour les enfants.
Ouais.
Pour qu'ils puissent se sentir un petit peu plus intégrés.
Donc les bibliothécaires étaient contents, je crois qu'on a atteint au moins les 1200 visiteurs qu'il y a eu l'année dernière déjà à la médiathèque Toussaint.
Oui. Je pense effectivement, en tout cas, lors des remerciements à la fin de notre blind test, j'ai ressenti beaucoup d'enthousiasme en fait, le public était participatif, intéressé, puis c'était plutôt bon enfant, donc ils avaient l'air d'avoir apprécié en tout cas.
Bon, et on passe à la chronique de Sébastien. C'est parti, on s'écoute ça dans l'imaginaire sur le 101.5.
Bonjour, je m'appelle Gervine, je suis scénariste de BD et auteur de jeux. Aujourd'hui, je vais vous parler de Zone 25, une histoire qui se déroule dans un monde post-apocalyptique, dans lequel les robots ont pris le pouvoir, en fait, et ils ont créé des zones, un petit peu partout dans le monde, et les humains sont parqués dans des camps, du moins la plupart d'entre eux, puisque certains se cachent. En particulier, une communauté qui se situe dans la zone 25, justement. Mais cette communauté connaît une vraie difficulté, parce que une épidémie est survenue, et malheureusement, on n'a pas les moyens d'enrayer cette épidémie. Donc la communauté envoie l'un des leurs, un certain Karl, pour trouver un remède dans la zone 25. C'est un livre-jeu exigeant, à la limite d'un jeu quelque part. Tout au long de l'aventure, on va éviter d'être repéré par des robots, on est toujours exposé à des dangers, on va devoir explorer évidemment, trouver du matériel aussi pour survivre, et puis surtout trouver un remède correct. Il y a énormément de remèdes qui sont disponibles, certains peuvent même se trouver très très facilement et dès les premières cases du jeu en fait, alors que les remèdes les plus efficaces évidemment demanderont un petit peu plus de difficultés. Il y a d'ailleurs une partie de l'aventure qui n'est accessible qu'avec un petit peu d'acharnement. Faut vraiment réussir à trouver les solutions et s'en sortir et explorer beaucoup finalement pour réussir à trouver cette partie-là. C'est un jeu avec une ambiance assez lourde. On n'a pas envie de rencontrer les adversaires, on est en mode survie. Et pour rendre un petit peu cette ambiance un peu pesante, je voulais créer une mécanique qui colle bien. Des combats assez rapides, qu'on soit assez vite démuni, qu'on puisse réutiliser peut-être des matériels pour des usages qui ne sont pas forcément très communs. Bref, j'ai essayé de travailler cet opus en lui donnant une touche un peu particulière. Alors, la première question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que tu as aimé Zone 25 ?
Avant de te répondre, Jarvin, je mentionne aux auditeurs de Radio G que la BD-jeu Zone 25, éditée par Macaca, concourt au prix du livre-jeu 2022, remis lors du Festival international des Jeux de Cannes. À la question de savoir si j'ai aimé, c'est un grand oui que je formule. Dans ce sens, les axes de jeu de la double page de règles qui suivent les quelques cases d'introduction dans le bunker participe au plaisir pris d'explorer la zone 25. Car le challenge prend bien d'arriver à mettre la main sur un des meilleurs remèdes, voire plusieurs, dans le moins de temps possible, tout en ayant à se jouer des robots quadrillant la zone pleine d'étendues de bâtiments différents. À ce challenge principal s'ajoutent d'autres challenges secondaires, tels dénicher des objets spéciaux, de meilleures armes, pour faire grandir les chances de succès de notre personnage. Avec un profil spécifique à définir entre quatre, médecin, chasseur, soldat ou bricoleur. Le sentiment que j'en retire, c'est d'être dans un RPG très bien ficelé, où les voies menant à la victoire sont aussi nombreuses que les choix de route pris, d'où de bonnes heures de jeu qui en découlent.
La deuxième question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que tu as ressenti quand tu as joué l'ambiance oppressante et tous les effets justement qui ont été mis dans la mécanique.
Pour revenir sur l'ambiance oppressante, ce qui la traduit bien, c'est la solitude vécue dans bon nombre de cases traversées, dépeignant un monde presque à l'abandon dans lequel il va falloir trouver ses marques et où la peur d'être détecté par des drones patrouilleurs, la chose symbolisée par des numéros de cases rouges non noires, demeure en étant assez souvent découvert. J'avoue autrement qu'apprendre à être silencieux, on l'oublie par moments, si on use d'une arme à feu. Sinon, faire des rencontres comme celle d'une bande de backers, les ayant aidés à repousser une attaque de robots de leur planque, devient des moments gratifiants, avec des récompenses à l'appui. Autrement, parmi les autres effets de la mécanique de jeu qui me plaisent bien, c'est l'envie nette de vouloir passer au peigne fin tout un lieu précis comme l'hôpital, pour ne pas en repartir les mains vides, quel que soit le remède qui est caché. Mieux que celui pour soigner les animaux de la clinique du vétérinaire. Ainsi, petit à petit, des zones minutieusement fouillées peuvent être détaillées sur une carte qu'on dessine par rapport à celle vierge de détails qu'on a en équipement et donnée à la case 176. Quelque part, Jarvin, la zone 25, c'est à nous d'en dégager des côtés accueillants, positifs, pour contrebalancer la suprématie des robots dedans.
Qu'est-ce que tu relèves comme point positif, comme point négatif aussi du jeu ?
Peut-être, Jarvin, que certains profils de héros favorisent bien plus que d'autres le joueur, pensant à ceux du médecin et du bricoleur, qui permettent d'accéder à des cases inédites, pouvant se révéler capitales pour emprunter de futures voies. Néanmoins, grâce à la gestion de la jauge d'effort, pour augmenter parfois d'un ou quelques points nos attributs, force, agilité, courage, j'apprécie de pouvoir me passer d'un objet pour forcer par exemple la porte d'un placard. Tout est fait pour ne pas bloquer de trop le joueur dans la chasse au remède, au nombre de 13. À charge pour le joueur, par contre, de savoir tirer son épingle du jeu, en faisant de judicieux choix au moment opportun. Un des autres gros points positifs de la BD Jeux, c'est l'épisode de capture par des robots patrouilleurs, menant Karl, case 330, à un camp de prisonniers, qui peut être un échec à relativiser, selon qu'on s'en échappe.
Merci beaucoup en tout cas, et à bientôt j'espère.
Pour conclure, les amis, voici du post-apo tout à la fois prenant et surprenant. Soyez un Tokboy maintenant, tiré de l'anime manga Okuto no Ken, comme le chant Tom Cat, sur le 101.5, votre destination musicale.
De la chronique de Karine dans Imaginaire sur le 100%, je lance ton jingle.
Donc Fumée est un roman qui m'a intriguée tout de suite.
Fumée.
Oui. J'étais très curieuse de m'immerger dans cet univers si particulier et de découvrir comment l'auteur avait fait des liens entre l'addiction au tabac et une enquête policière. Nicolas Texier nous offre une intrigue autour d'un personnage, un inspecteur de police, qui s'engouffre dans une enquête autant que dans son addiction. Ainsi, nous le suivons sur un dossier, celui de nicotine, qui n'est autre que la fée de la cigarette. Nicotine a disparu et cet inspecteur de la sûreté va entreprendre des recherches qui vont le mener sur la piste de trafiquant d'armes. La descente aux enfers commence à cet instant, puisque cet inspecteur, traumatisé par la guerre d'Algérie, va se confronter à cette enquête qui ne cesse de lui rappeler des souvenirs de cette guerre. Ma curiosité a donc été satisfaite par la lecture de ce magnifique roman graphique. En effet, l'auteur a su développer un récit très noir et complètement envoûtant. Dans cette histoire, plusieurs messages sont évoqués. Tout d'abord, l'addiction au tabac qui vient hanter nombre de fumeurs et d'anciens fumeurs. Puis l'obsession de boucler cette enquête au détriment de sa propre santé. Un sentiment que l'on peut tous ressentir, finir un travail, un devoir, une mission, coûte que coûte. Ce roman interroge ce comportement, plus ou moins subtilement au fil des pages, et enfin, il évoque la guerre, les séquelles et traumas qu'elle engendre. L'auteur nous emporte donc, dès les premières lignes, dans un univers sombre et froid que Melchior Ascaride met en avant à travers des illustrations en bichromie bleu et noir, ce qui accentue cette ambiance d'errance. Rien n'est là... fallait bien que ça arrive, hein. Rien n'est laissé au hasard, puisque la mise en page, elle aussi, amplifie cette ambiance par divers sens de lecture. Nicolas Texier est auteur de littérature blanche en premier lieu. Il a débuté ses écrits dans la fantasy en écrivant la série Monts et Merveilles. Depuis, plusieurs œuvres ont suivi. Melchior Ascaride est le graphiste principal des Moutons électriques et dirige la maison d'édition Les Saisons de l'Étrange. Je vous invite donc chaleureusement à découvrir ce bijou qui revisite la fantaisie urbaine et le polar également, et qui rend hommage au polar justement des années 50.
Ouais, alors petite question, c'est un roman qui bascule dans le fantastique ou on est dès le début dans un univers
On est entre fantasy. Les deux dès le début. Okay. Parce qu'ils vont très vite évoquer justement le personnage de la fée Nicotine. Et puis, on est vraiment dans un univers parallèle, en fait, du début jusqu'à
d'accord.
la fin. Quoi.
Ok. Avec quand même pas mal de codes du roman noir.
Oui. Oui, oui. Parce que justement, enfin, je pense que c'est ça qu'ils ont voulu créer. C'est vraiment une ambiance hyper froide, hyper sombre. Et hyper envoûtante, où t'es pris dedans vraiment dès les premières lignes. Enfin, moi, je l'ai lu en une seule soirée, quoi.
Ah ouais,
et franchement, je voulais le lire à tout prix.
Ou alors aussi, quelque chose que je remarque par rapport au roman graphique, on va dire, qui était déjà sorti au Mouton électrique, c'est cette fois, ils ont une couverture rigide, cartonnée. Ouais.
Ouais.
Alors que là, on avait plutôt des couvertures souples. Très bien. Fée Weeds et Nicotine, donc. J'étais obligé de la faire, celle-là.
Et donc, je vous invite également à jeter un œil à la collection Bibliothèque dessinée des éditions Les Moutons électriques, et enfin à vous intéresser aux œuvres réalisées par Nicolas Texier et Melchior Ascaride. Et je vous laisse avec la chanson Pray to the Hunter du groupe Saltatio Mortis.
Un groupe allemand, je crois, mais qui s'inspire d'un jeu vidéo... The Elder Ring, je sais pas. On est un petit peu nul en jeux vidéo.
C'est fort possible. Mais vu que je m'intéresse pas forcément à tous les groupes, je les écoute, je les aime beaucoup. Voilà. J'ai envie de les partager avec les auditeurs.
La musique se suffit à elle-même sur le 105.
Voilà. Exact. I hear you breathing so faintly and weak. Remembering my promise. I'm willing to keep. I've sworn to protect you when you came to life. Why mourning your mother? Why mourning my wife?
into the winter, to death and decay. I pray to the wise one to guide me on my way. I pray to the fallen to mantle my fears. I pray to the north winds to freeze the trail of my tears. I pray to the dragon, so mighty and wild. I pray to the mother to save the life of my child.
Donc on a dit Salvatio Mortis dans Imaginaire. Exactement. Sur le 101.5. Et c'est l'heure d'écouter l'interview d'Hervé Le Tellier qu'on avait enregistré aux Utopiales. C'était Romuald qui l'avait interviewé.
Tout à fait.
L'association Imaginaire est toujours aux Utopiales 2022 à Nantes. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux de pouvoir échanger avec Hervé Le Tellier, l'auteur du roman L'Anomalie. Donc Hervé Le Tellier, bonjour.
Et bonjour.
Puis merci d'avoir accepté cet entretien. Difficile de vous présenter, Hervé, tant vous êtes multiple. Dans le désordre, vous avez été éditeur, journaliste, poète, chroniqueur radio France Inter. C'était des papous dans la tête.
France Culture.
Et vous êtes docteur en linguistique. Donc la spécialité, c'était les littératures à contrainte.
Oui.
Mais vous avez commencé par des études mathématiques.
Oui, j'ai fait des maths longtemps. Je n'étais pas un très bon mathématicien. Mais oui, j'en ai fait longtemps, j'ai fait 8 ans. Donc on peut considérer que c'est long. J'ai enseigné un peu en fac, et puis j'ai arrêté parce que j'ai réussi un concours de journalisme qui m'a orienté dans une autre voie. Et j'ai décidé d'être un journaliste scientifique parce que c'était l'endroit où c'était le plus simple d'avoir du travail. Et j'ai fait ça pendant presque 10 ans.
Et vous êtes aussi président de l'Oulipo depuis 2019?
Absolument.
C'est ça. Alors l'Oulipo, c'est l'ouvroir des littératures potentielles, et on y reviendra un petit peu après, on prendra ce temps-là. Et vous êtes d'ailleurs l'auteur de l'essai L'esthétique de l'Oulipo. On peut aussi citer vos collaborations pour le théâtre ou dans le monde de la BD. Vous êtes l'auteur et surtout de plusieurs romans, parmi lesquels La disparition de Pérec,
qui est un poulpe.
C'est pour ça qu'on l'a cité. Je m'attache très facilement parce que il a été lauréat du prix roman d'amour en 2007.
Ouais, c'est une Bérésina amoureuse, mais j'ai eu le prix du roman d'amour quand même. Ouais.
Et puis récemment, il y a eu moi et François Mitterrand, qui était un échange entre quelqu'un qui porte votre nom et François Mitterrand.
Ouais.
Un échange épistolaire. Et puis toutes les familles heureuses aussi en 2017.
Là, qui est un récit familial.
Qui est un récit, qui était beaucoup plus intime. Et bien évidemment, l'anomalie en 2020 qui vous a valu, aux éditions Gallimard, qui vous a valu d'être récompensé par le prix Goncourt. Et vous l'aviez reçu dans des conditions un petit peu particulières, il me semble, avec le Covid.
C'était unique, c'était, je pense qu'on peut le dire.
C'était en visio, c'était ça?
C'était en visio avec des académiciens à Goncourt qui découvraient le plaisir du Zoom et qui n'étaient pas forcément très très techniquement au point. Voilà. Pierre Assouline avait réussi à se mettre un fond de palmier derrière lui. Et puis les autres faisaient « Est-ce que mon micro marche ? Ça marche là mon micro ?» Voilà. C'était assez folklorique, mais c'était plutôt sympathique. Hein. Et puis moi ça m'arrangeait parce que ça, j'étais pas très fanatique de la sortie de Rouen avec la forêt de micro, la bataille des journalistes, le vent, la pluie parfois en novembre.
Vous avez raté le repas alors ?
Oui, j'ai raté le repas, j'en ai eu un prêt plus tard, mais qui n'était pas aussi glorieux que le repas du Goncourt. Donc j'ai raté cette cérémonie un petit peu d'intronisation dans l'univers Goncourt, qui était celle de tous ceux avant moi, et de tous ceux après moi d'ailleurs.
On espère en tout cas.
Et donc je suis passé dans ce petit trou dans l'espace-temps où effectivement tout était interdit.
Donc l'histoire de votre roman, l'anomalie, part d'un concept particulier. C'est le vol Paris-New York qui va atterrir en mars 2021 et avec une diversité de personnages à bord que vous décrivez. Et 3 mois plus tard, le même avion atterrit une nouvelle fois, exactement avec les mêmes personnes. Et là, on a 3 mois plus tard des gens qui se retrouvent en double, avec un double parfait, un double qui est un double d'eux-mêmes. Donc on a les gens du mois de mars, les doubles du mois de juin. Première question, moi, qui m'est venue à l'esprit, c'est comment vous êtes lancé dans ce projet? Comment ce projet est déjà arrivé, quoi, dans votre...
J'avais commencé par une... En 2018, j'avais commencé par une nouvelle que j'avais écrite en août et que je trouvais pas bonne du tout. Enfin, disons qu'elle avait un potentiel que je n'exploitais pas. Et qui était l'idée d'un type qui rentre chez lui, qui se trouve face à lui-même. Et quelque chose un petit peu à la Marcel Aimé, hein, parce que ça ressemble un peu à des idées de Marcel Aimé. Et que j'ai abandonné assez vite en me disant c'est trop pauvre, je peux trouver mieux que ça. Et je me suis dit comment est-ce que je réagirais, comment réagirait une amie, comment réagirait un autre ami. Et au fur et à mesure que j'avançais dans ce projet, je me suis dit qu'il y avait un certain nombre de réactions possibles et qu'il fallait que je les explore toutes. Alors j'en ai en fait déterminé 16, voilà, sur une échelle de l'amour jusqu'à la haine, en passant par l'indifférence, en passant par des niveaux d'intensité. Et puis j'en ai retenu 8, qui vont donc du sacrifice, comme une de mes personnages qui est tombée enceinte et qui donc doit se sacrifier parce que l'autre justement va porter un enfant et qu'elle, il faut qu'elle disparaisse, jusqu'au tueur à gages qui lui n'a pas d'état d'âme et va décider de supprimer son double. Et puis entre les deux, il y avait tout un panel de situations possibles. Ce qui m'intéressait, c'est que à chacune des situations que donc j'avais déterminé, j'ai fait une distribution quasiment cinématographique pour trouver le personnage qui collait avec cette situation. Ce qui est vraiment ce qu'on fait de manière inversée dans les romans. Dans les romans, on a un personnage, on le définit psychologiquement, physiquement, et puis ensuite on le jette dans une série d'aventures. Et là, en fait, on fait une chose différente, qui est qu'on a une situation en particulier, et qu'on détermine quel est le meilleur personnage possible pour endosser cette situation. Ce qui fait qu'ils sont assez intenses, les personnages, parce qu'effectivement, comme ils sont confrontés à quelque chose de relativement invraisemblable, il faut les rendre extrêmement intenses et extrêmement denses pour qu'on puisse comprendre pourquoi ils réagissent comme ça. Donc j'en ai trouvé, moi, 8 que je trouvais vraiment intéressants. Il y en a qui sont plus proches de moi, d'autres qui sont très éloignés de moi. C'est pas forcément, d'ailleurs, ceux qui sont les plus proches physiquement de moi qui sont les plus, intellectuellement les plus proches. C'est très compliqué, cette affaire. Et au bout d'un moment, on est très intime avec des personnages dont on ne pensait pas qu'on allait se rapprocher autant. Une fois que j'ai eu cette idée de mes nombreux personnages, il fallait bien que je les mette quelque part pour qu'il leur arrive la même aventure au même moment. Et je les ai tous mis dans un avion parce que c'était le lieu dans lequel ça me paraissait le plus, cosmopolite, sur un vol qui me paraissait emblématique de mon adolescence, qui était le vol Paris-New York. Et je faisais d'une certaine manière un hommage à mon adolescence avec des idées qui étaient... je me suis amusé à l'écrire. Donc... j'ai repris beaucoup de choses qui datent de cette périodes-là, qui sont des films que j'ai vus dans ces moments-là, qui vont de Rencontres du troisième type, en passant par Docteur Falamour, voilà, et dans lesquels je m'amusais à reprendre des images que j'avais en tête pour les caler dans le roman. Et ça me paraissait extrêmement logique que ça se trouve organisé comme ça. J'ai eu aucun problème, en fait, à l'écriture, parce que justement, c'était tellement un livre qui m'amusait que j'ai finalement 11 mois à l'écrire, ce qui est très peu. Mmh. Et j'ai mis deux mois à le réduire pour qu'il soit plus dense. Et j'ai ajouté la dernière phrase quasiment qui était dans un discours de Macron lors du premier confinement. Parce que on était en février, on sentait qu'il y allait avoir des confinements et qu'il y en aurait plusieurs. Parce qu'on nous disait qu'il n'y en aurait qu'un, mais moi j'y croyais pas. Et donc j'ai mis la phrase lors du premier confinement. Ce qui donne l'impression que ce livre a été écrit pendant le confinement, mais alors que pas du tout. Il avait été entièrement écrit en 2019. Je l'ai fini en janvier 2020, complètement, remis le 15 janvier à Gallimard. Et puis les allers-retours un peu compliqués avec la correction Gallimard, parce que c'était le début du confinement, que quand j'appelais le correcteur, il y avait ses gosses qui hurlaient derrière parce qu'il était, chez lui. On avait du mal à s'entendre. Et j'ai rajouté cette petite phrase en lui disant, à mon avis, pour qu'on soit plus dans l'actualité, on va rajouter ça.
Et d'ailleurs, chez Gallimard, comment ils ont pris, en fait, accueilli ce projet qui ne leur ressemble pas forcément?
Bah, oui et non. C'est-à-dire, il y a chez Gallimard, et il y a eu dans la NRF, des romans de science-fiction. Récemment, j'ai commandé un livre de 1937 de Jacques Spitz qui s'appelle La guerre des mouches et qui est publié en NRF Gallimard Fantastique. À l'époque, il y avait une collection fantastique chez Gallimard. Bon, c'est vrai que c'est pas a priori un livre de la Blanche sous effet classique.
Parce que là, on n'est pas dans une connexion particulière, on est vraiment chez Gallimard.
Oui, oui, NRF, c'est la Blanche. Il se trouve que le livre n'avait pas été écrit a priori pour la Blanche. Il avait été écrit dans un contexte différent parce que j'étais à l'époque chez Laptès et que j'avais eu cette idée avec une éditrice qui s'appelle Karina Austin. Je travaillais à l'époque avec Karina Austin, avec Charlotte Von Essen, qui était ma deuxième éditrice. Elles étaient toutes les deux chez Laptès. Et elles sont toutes les deux parties, l'une pour diriger Gallimard et l'autre pour être directrice éditoriale chez Gallimard. Donc j'ai suivi. J'étais dans le palier de la mariée. Et je n'étais pas du tout pressenti pour être le candidat à Gallimard pour le concours. C'est pas un secret de Polichinelle que de révéler ça, c'était pas du tout prévu en tant que tel. Après, le livre s'est trouvé sur toutes les listes de prix. Médicis, Renaudot, Goncourt, le prix Vépler, le prix Décembre, c'est très étrange. Et même le prix Fnac. Donc j'étais dans toute une série de listes. Mais on peut très bien se l'allumer entre toutes les listes et les rater toutes, hein. Ça arrive, hein. Il y avait eu l'année dernière un pauvre garçon qui était sur toutes les listes et qui n'avait aucun prix. Donc je m'étais mis en tête que je n'aurais pas de prix, mais ça fait rien, j'étais dedans. Et finalement, les choses ont tourné comme elles ont tourné. Mais oui, c'est vrai que ce n'est pas un bouquin très classique chez Gallimard. La preuve, c'était que lorsque on m'a posé la question de présenter ce livre au libraire, toujours dans un contexte de confinement, les trois questions qu'on m'a posées ne pouvaient pas du tout correspondre au livre. La première chose, c'était quel est le héros de votre livre? Bon, ben non, j'en ai plusieurs. Deuxième question, quelle est l'histoire de votre livre? Ah ben non, je ne vais pas la raconter. Et troisièmement, comment ça s'inscrit dans votre œuvre? Eh ben, ça ne s'inscrit pas parce que mon œuvre est tellement disparate que finalement, ça ne peut pas venir en continuité d'autre chose. Même si c'est le rassemblement d'un certain savoir-faire ou d'une certaine appétence pour toute une série de genres, ce n'est pas tout ça. Et d'ailleurs, ce livre avait une caractéristique, c'est qu'il contenait absolument tous les styles possibles. Et ça m'intéressait, c'est une expérimentation. Mais ce n'était pas pour autant un livre expérimental, au sens où il n'exigeait pas du lecteur une plongée de... très complexe dans l'univers littéraire expérimental. Au contraire, je lui proposais une sorte d'expérimentalisme doux, avec un passage d'un style à un autre, avec...
C'est un mezzé littéraire.
Pardon ?
C'est un mezzé littéraire.
Un mezzé littéraire, oui, c'est vrai. C'est dans lequel on avait plein de choses différentes, plein, non seulement de styles différents, mais de formes différentes, avec des mails, avec des lettres, avec des interrogatoires du FBI, avec... dans toutes les formes, avec un roman dans le roman, qui est le roman que je détesterais avoir écrit, mais qui est présent dedans, avec des phrases qui m'ont empoulé, qui moi me sortent par les trous de nez, comme je sais pas, jamais ma fourrure de solitude ne réchauffera le monde, ce qui me semble une phrase impossible, mais qu'on peut trouver chez certains auteurs que je n'énoncerai pas. Mais voilà, et donc j'étais là-dedans, et je trouvais drôle d'avoir tout ça dans le livre.
Ah. Alors d'ailleurs, justement, en parlant de genre, dans le milieu de l'imaginaire, hein, il a été très bien accueilli, ce livre-là, et tout de suite, la question, peut-être parce qu'on est dans une sorte de forteresse un peu isolée par rapport au reste de la littérature, c'est est-ce que c'est un livre de science-fiction ou pas ? Juste, c'était pour dire que nous, on a un avis. On pense que c'en est un, puisque c'est traversé par un concept de science-fiction. Mais vous avez expliqué, effectivement, que vous avez testé chaque personnage correspond à un genre littéraire. Mmh. Mais est-ce que vous rejetez, finalement, ce qu'on pourrait vous apposer de l'extérieur ?
Non, moi, d'abord, j'ai pas la puissance pour refuser qu'on me classe dans telle ou telle catégorie. Il se trouve que ce livre-là, je ne l'ai jamais présenté comme science-fiction pour deux raisons. La première, qui est que c'est pas... Il y a de la science, il y a de la fiction, mais ce n'est pas de la science-fiction. C'est-à-dire, il n'y a pas d'arrivée d'extraterrestres, il n'y a pas d'univers du heroic fantasy. On est dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, et je propose simplement quelque chose qui constitue une expérience de pensée. Et qu'est-ce qui se passerait si, en fait, on était tous des programmes. Évidemment, c'est une pensée qui peut s'apparenter à la science-fiction. Or, on est déjà dans cet univers-là. Tout le monde fait déjà des simulations. Il n'y a pas un seul avion qui décolle, qui n'ait pas été simulé avant de décoller. Tous les drones sont avant tout des résultats de simulations électroniques. Donc, on est déjà dans cet univers-là. Donc, ce qui n'est pas, pour moi, réfère à la science-fiction, c'est un peu soit l'anticipation, soit l'irruption dans le monde tel qu'on connaît d'un phénomène qui est un phénomène vraiment très différent de celui que je propose. Donc, moi, je ne me situais pas là-dedans. J'ai absolument rien contre la science-fiction. J'ai fait un plaidoyer dans un livre antérieur qui s'appelle « Toutes les familles heureuses » pour la science-fiction, et en particulier pour la science-fiction pour les jeunes générations. Parce que je pense que ça ouvre l'univers de la philosophie, parce que c'est de la philosophie, vers quelque chose qui est à la fois du fictionnel et donc de l'attractif, et simultanément de la réflexion profonde. Quand vous lisez « Demain les chiens » de Clifford Tessimac, ça vous pose une question sur qu'est-ce que c'est que la nature divine, qu'est-ce que c'est que notre passé. Si vous lisez un livre comme « Le maître du haut château » de Kadic, ça vous dit qu'est-ce que c'est que l'histoire, quelles sont les potentialités de l'histoire, comment elle peut se dérouler.
Et la réalité,
c'est qu'est-ce que c'est que la réalité. Si vous lisez « Les fleurs pour Algernon », c'est une sorte de métaphore du vieillissement. Donc à travers un truc de science-fiction qui est l'idée d'une opération qui rend quelqu'un très intelligent, qu'est-ce que c'est que le drame de la perte, finalement, de son intelligence, qui est non pas un drame lié à une personne, mais qui nous arrive à tous en vieillissant. Et on pourrait énumérer comme ça, et d'ailleurs j'avais fait toute une série de petites énumérations dans Toutes les familles heureuses. On peut, à travers l'univers de la science-fiction, aborder des problèmes qui sont des problèmes philosophiques. Il y a un livre que j'adore qui s'appelle « La philosophie par les blagues ». C'est aussi une façon de le faire, de prendre une blague et de voir qu'est-ce qu'elle contient en fait comme questionnement philosophique. Mais dans les livres de science-fiction, il y a cette question-là. Le livre, par exemple, « Dune » de Frank Herbert, c'est un livre qui peut parler de science-fiction, mais en fait qui parle du choc pétrolier et qui parle dans un univers qui est celui d'une planète Arrakis, de qu'est-ce que c'est que la stratégie de domination sur un monde dans lequel une matière première est décisive. Et ça s'appelle l'épice dans le cas de Dune, mais c'est une métaphore incroyable de la tentative de posséder le Moyen-Orient par les États-Unis quand on le regarde un petit peu avec distance. Et on peut comme ça multiplier les exemples. Donc j'avais vraiment rien contre le fait qu'on dise que c'est de la science-fiction. Moi, je le voyais pas comme tel, mais j'ai pas de réticence particulière à ce que des gens décident de le classer dans cet univers-là. Je voulais pas non plus que des gens qui ont peur de la science-fiction passent à côté de ce livre. Parce que malheureusement, une partie du lectorat se dit « c'est la science-fiction, c'était pas fait pour moi ». Je pense le contraire. Je pense que beaucoup de livres de science-fiction sont faits pour tout le monde. Mais comme le livre parlait en fait de la confrontation à soi, qui n'est pas une question de science-fiction, de l'homosexualité, de la question de la violence faite aux enfants, de la question de l'inégalité sociale, de la question des systèmes de sécurité sociale dans les pays comme les États-Unis. Enfin bref, j'abordais toute une série de questions qui étaient des questions planétaires et d'aujourd'hui, qui n'étaient pas des questions science-fiction. Donc ça me paraissait un biais, l'expérience de pensée, plus efficace que dire c'est de la science-fiction.
Et alors, donc, il y avait ces contraintes que vous avez mis dans votre livre. Vous êtes président de l'Oulipo, comme j'ai déjà dit tout à l'heure. Alors, ce principe-là de l'Oulipo, c'est d'explorer finalement les potentialités de la langue. Et c'est oui. quelque chose dans lequel vous aimez travailler. Enfin, vous y êtes depuis très très longtemps. C'est par les contraintes. Et est-ce que la contrainte, pour vous, c'est quelque chose justement de libératoire ?
C'est. Pour tous ceux qui utilisent la contrainte, mais pas seulement moi, c'est libératoire. C'est libératoire, ça fait emprunter des chemins qu'on n'emprunterait pas si on n'avait pas la contrainte, ça fait écrire autrement. Et quand je dis contrainte, je vais très loin, c'est-à-dire que pour moi, écrire un sonnet, c'est une contrainte. Écrire, prenez les contemplations de Victor Hugo, c'est de la contrainte. Il écrit des alexandrins, on n'écrit pas la même chose en alexandrin qu'on a écrit en prose. Donc pour moi, ça va jusque-là. Après, est-ce que c'est libératoire ? Disons que ça fait un effet de levier, voilà, sur toute une série de questions qu'on n'a pas du tout pensé aborder. Dans ce livre-là, beaucoup moins que sur des livres précédents, parce que les contraintes étaient déjà suffisamment importantes pour que je n'en apporte pas en plus. J'avais une contrainte de tresse des personnages, j'avais une contrainte de début de chapitre qui parfois était emprunté à d'autres livres mais déplacé. J'avais des contraintes de construction, de selon les âges, il y a tous les âges. J'en ai illuminé deux parce que je ne trouvais pas ça intéressant, mais il y avait un jeune adolescent que j'ai supprimé, et il y avait une vieille dame atteinte d'Alzheimer. J'en ai supprimé. Voilà. Donc, j'avais beaucoup plus de personnages que ça au début, j'en avais 12, et j'en ai supprimé 4. Il y en a que j'ai fusionné, il y avait un chien, par exemple, qui se battait avec lui-même, et que j'ai fusionné avec Blake, mon tueur à gages, puisque finalement, c'est presque le même personnage. Donc, j'avais déjà suffisamment d'éléments contraignants pour ne pas m'en rajouter, et ça me suffisait, mais je pense que oui, c'est libératoire, et je pense que, surtout, ça emmène à emprunter des chemins qu'on n'a pas envisagé de prendre. Et ça, c'est important, parce que d'un seul coup, c'est pas notre premier jet qui détermine la page suivante, c'est quelque chose qu'on doit mettre dans la deuxième page, qui n'a pas été prévu et anticipé. Une matière, une couleur, un personnage, et on est donc amené à aller ailleurs. Dans ce livre-là, pas tellement, parce que j'avais trop de contraintes. Mais dans des livres antérieurs, oui, ça m'arrive.
Alors, il n'y a pas qu'une histoire de forme aussi dans votre roman, parce qu'il y a beaucoup de sujets, effectivement, il y a beaucoup de sujets. Mais il y a aussi, j'ai l'impression qu'il y a vous parsemez un petit peu, surtout vers la fin, de quelques idées personnelles. Et j'ai remarqué qu'il y avait cette réaction face à un déni de l'humanité, face aux dangers existentiels qui arrivent dans votre livre, mais qui pourraient aussi arriver chez nous. Ça m'a fait penser au film Don't Look Up.
Ah bah, moi aussi.
Quand j'ai vu
Don't Look Up, je me suis dit, c'est exactement métaphoriquement ce dont je parle. C'est évidemment, surtout, ne pas regarder ce qui nous arrive. Ceci dit, Don't Look Up, qui est un film extrêmement drôle, avec un DiCaprio exceptionnel, est une sorte de métaphore de ce qu'on vit. C'est-à-dire, c'est un raccourcissement en 2 ans de l'arrivée de la destruction. Nous, ça va nous arriver en 25 ou en 30. Mais c'est la même chose. Oui, c'est un livre, c'est un film tout à fait intéressant de ce point de vue-là. J'aime beaucoup ce cinéaste, en plus, qui avait fait avant un film qui s'appelait Vice, sur le vice-président américain. Donc, il y a cette idée qu'effectivement, le déni fait partie de notre constitution. Je pense que c'est lié au fait qu'on est des êtres pensants. Et que si on ne vit pas dans le déni, on crève, parce que déjà on vit en sachant à partir de 5 ans qu'on va mourir. Donc si tous les matins on se réveille en disant « je vais crever », c'est pas possible. Donc on a en permanence en nous ce dispositif mental qui nous permet d'éviter le réalisme concret de notre existence. C'est-à-dire la finitude est chassée en permanence, on se dit « encore un jour ». Et c'est indispensable pour arriver à survivre. Donc c'est inscrit dans nos gènes, cette idée qu'on va dénier. Il y a d'autres choses qui sont inscrites, qui sont par exemple l'idée qu'on va survivre à travers nos enfants, à travers nos œuvres, une sorte d'illusion permanente voilà, qui, elle, est complètement détruite dans un autre film qui s'appelle Mélancolia, et qui, à mon avis, est un chef-d'œuvre aussi pour ça, parce que c'est une histoire de destruction, exactement comme d'ailleurs Don't Look Up, mais qui, elle, pousse à la dépression et qui va tout de suite poser la question de la création et de la vénalité de toute la création, puisque vont être détruites aussi bien les œuvres littéraires de toute l'humanité, de Gilgamesh en passant par, par Flaubert, jusqu'aux pyramides. Il n'y aura plus rien. Donc tout ce qu'a créé l'humanité va disparaître. Et c'est finalement encore plus terrible, cette idée-là.
On va passer au portrait chinois. Si, si vous étiez un roman de science-fiction, qui seriez-vous comme roman ?
Je pense que je serais La Guerre des Mondes. D'abord parce que c'est un des livres que j'ai lu assez jeune, et il y a déjà énormément de choses dedans. Il y a presque tout dedans de ce que va donner Wells. Et il invente quelque chose de totalement neuf, même si, comme d'habitude, il a des prédécesseurs, René Aîné, l'Exipéou, mais lui, il invente un truc complètement neuf. Et j'aime beaucoup ce roman.
Si vous étiez un auteur qui n'a jamais reçu et ne recevra jamais le Goncourt, qui seriez-vous ?
Pierre Autin-Grenier, qui a écrit des livres absolument formidables, comme Une vie bien ratée, qui est un homme d'une noirceur et d'une ironie rare, un peu à la Blondin, sans l'alcool, et qui a un vrai talent littéraire qui est totalement oublié.
Et enfin, si un avion atterrissait avec Hervé de Tellier à bord et qui n'avait pas gagné le concours, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à ce Hervé de Tellier ?
Ah, je pense que j'essaierai de travailler avec lui. C'est-à-dire, je suis assez flemmard, donc je me dis que travailler à deux, ça sera intéressant. En même temps, la limite du travail à deux, quand on est deux-mêmes, c'est que personne n'a d'idée différente de l'autre. Donc c'est un peu, on va peut-être deux fois plus vite, mais c'est même pas sûr. Et surtout, on ne s'apporte rien l'un à l'autre. Il vaut mieux travailler avec quelqu'un qui vient d'ailleurs, quoi. C'est tout le problème.
Je fais une parenthèse, mais si on suit votre réponse, avec le Tellier qui vient vous rejoindre, n'a pas gagné le concours. Vous avez gagné le concours. Est-ce que votre expérience n'influerait pas sur vos pensées ? Est-ce que vous, du coup, n'auriez pas un point de divergence entre vous deux ? Et donc,
non.
Des idées nouvelles ?
Non, je pense pas. Je pense que le concours m'a pas beaucoup changé en termes personnel. Bien sûr, j'ai une aisance financière que je n'avais pas auparavant, mais d'abord, il m'arrive un peu tard, j'ai 65 ans, ce qui veut dire, j'ai eu la 63, donc ce qui signifie qu'une partie de mon travail est déjà derrière moi, et que ça me libère de contraintes que j'avais finalement assez peu déjà, donc je continuerai à faire le même travail que j'ai fait auparavant. Il y a des auteurs à qui ça arrive jeune et qui tentent de refaire la même chose. Moi, je n'ai aucune chance de revendre une autre fois avec un autre livre plus d'un million d'exemplaires. Donc, cette idée de faire mieux la fois suivante est totalement en dehors de mes perspectives. Donc ça, c'est déjà une très grosse libération aussi.
Oui, vous faites mieux que Victor Missel qui vend 200 000 exemplaires.
Je fais beaucoup mieux que Victor Missel. Ouais.
Qui, lui, a d'ailleurs raté aussi des prix auparavant.
Beaucoup.
Dont le concours.
Dont le concours.
Et bien merci Hervé Le Tellier.
Merci à vous.
Cette interview touche à sa fin et comme d'habitude, on vous laisse la possibilité de choisir la musique de fin. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ?
Life on Mars.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup Hervé.
It's a god awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no. And her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view. And she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the is
It's on America's tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing bore, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again as I ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Take a look at the lawman beating up the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know he's in the best-selling show. Is it life on
C'est David Bowie et un chanteur très choisi quand même par les gens qu'on interviewe.
Oui,
on a souvent Life on Mars ou alors Space Oddity en fait. C'est assez rigolo. Bon, Sébastien vient de nous rejoindre dans le studio de Radio G. Il est prêt pour son émission qui va commencer dans une minute. Les Voix du Scénarium, ça va nous parler de quoi ce soir ? Oh bah attends. Si on va parler, on va allumer ton micro. Voilà,
c'est plus facile. On va parler de jeux de rôle,
okay.
Comme pour faire différemment, donc avec deux jeux de rôle. Un jeu de rôle que tu aimes beaucoup, Trouilleville, et puis on va parler d'un jeu de rôle, de deux jeux de rôle
on
français.
On va parler dans l'émission. Bitume.
Ouais. Un vieux jeu remis au goût du jour.
Voilà, un reboot. Et puis nous, 10 secondes pour faire l'agenda. Premier plan demain, soirée cinéma fantastique au 400 coups,
oui.
Avec El Doble, et puis les Révoltés de l'an 2000, je crois. Lundi, il y a un quiz à l'université au 4, justement, musique de film et tout. Donc là, on peut se monter des études de ouf à imaginaire. Faut que je me